BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Philippine Delbo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de BFM Climat, ici depuis les rencontres de Roissy-Meaux Aéropôle. Alors dans cette émission, on va parler aujourd'hui d'un sujet majeur, celui de décarboner nos chaînes de valeurs européennes. Car derrière la transition écologique se joue aussi, vous le savez, une bataille stratégique, celle de la compétitivité et celle de la souveraineté européenne et industrielle. Alors comment produire en Europe, proprement, durablement aussi, sans dépendre des autres continents pour nos technologies, nos énergies ou encore nos matériaux? L'hydrogène, les innovations industrielles, les nouvelles filières, tout ça se dessine évidemment dans une réindustrialisation verte qui n'est pas contrainte mais qui est surtout une formidable opportunité, vous allez le voir, économique et technologique. Alors les questions qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités sont les suivantes: comment transformer nos usines, nos financements ou encore nos écosystèmes pour faire de la décarbonation un moteur de croissance? C'est ce qu'on va explorer ensemble justement avec nos invités et ils sont là. Bienvenue à tous les trois. Loïc Voisin, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général, le CEO d'AZCO. Vous êtes accompagné à votre gauche de Pierre-Étienne Franc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le CEO d'I24. C'est comme ça que ça se prononce?
Alors on dit I24, mais c'est très bien
I24. Décidément. Et Laurent Favre, bonjour. Vous êtes le directeur général d'OP Mobility. Là, j'ai
bonjour.
Pas fait d'erreur.
Non, c'est parfait.
Magnifique. Bon, super. On est ravis de vous avoir en tout cas tous les trois parmi nous. On va commencer par poser le débat. Est-ce que la décarbonation est effectivement plutôt une contrainte ou une opportunité? Vous êtes tous les trois justement pour nous en, vous êtes là pour nous en parler. On entend souvent dire effectivement que la décarbonation coûte cher et qu'elle freine la compétitivité. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, que vous partagez ou auquel vous êtes confronté? Vous voulez commencer peut-être?
Oui, je commence. Enfin, après, mes amis en parleront un petit peu plus. Non, nous, la décarbonation, d'abord, je crois qu'il ne faut pas se poser la question dans ce sens-là. C'est une nécessité. À partir du moment où on a compris que c'était une nécessité, et je pense que tout ce qui se passe autour de nous en termes de dérèglement climatique nous le montre, la question est de savoir comment on le fait. Est-ce qu'on le traite comme une contrainte ou comme une opportunité? Et nous, on a voté chez OP Mobility pour se dire, on traite ça comme une opportunité. On est au cœur de la mobilité parce qu'on travaille avec tous les constructeurs automobiles du monde. On leur livre différents types de produits, de pièces extérieures à des réservoirs à essence. Et soit on s'arrête sur ce qu'on sait faire depuis 50 ans, on se protège, on a avance pas parce qu'on a peur de ce qui est en train de se passer.
Ouais.
On se dit c'est une nécessité. Et si on veut que la mobilité de demain continue à être accessible au plus grand nombre et continue à se développer, c'est quand même un besoin de chaque être humain de se déplacer.
Bien sûr.
Il faut arriver à traiter les deux. Donc une mobilité qui soit décarbonée. Donc c'est une opportunité si on innove, si on a des partenaires et si on a un petit peu de courage dans les investissements notamment.
Du courage, là aussi, on comprend qu'il en faut, contrainte ou opportunité.
C'est aussi un enjeu économique. Accessoirement, l'Europe importe en énergie fossile plus de 400 milliards par an. Et avec des dépendances que l'on connaît, qui étaient russes, qui sont aujourd'hui américaines et d'autres pays du Golfe, avec assez peu de sources d'importation. Alors qu'à partir du moment où je bascule sur une économie plus renouvelable, je relocalise une partie de mes besoins. Mmh. Et si je continue à importer une partie des énergies parce que j'ai pas assez de place ou qu'elles sont pas toujours assez compétitives, je vais avoir des sources d'approvisionnement beaucoup plus larges. Donc, je diversifie mes appros, je neutralise la géopolitique et je renforce mon bilan de commerce extérieur. Et le dernier point qui est essentiel, notamment pour le monde de la mobilité, c'est que à partir du moment où je définis que demain mes modèles économiques sont propres, je redéfinis les règles du jeu. Et comme je suis le premier importateur d'énergie et de beaucoup d'autres biens, toutes les autres pays du monde doivent s'aligner. Et c'est ce qu'ils avaient commencé à faire avec toute la programmatique européenne du dernier mandat de Ursula von der Leyen. On en parlera après.
Merci. Est-ce que vous partagez ce constat?
Tout à fait.
Ouais.
La contrainte, en fait, c'est l'emballement climatique. C'est le réchauffement climatique, c'est la pollution de l'air dans les villes, c'est la nécessité pour les habitants des villes de se déplacer, et c'est de ce champ de contraintes en fait qu'on choisit de faire une opportunité en proposant notamment une solution innovante de mobilité, en l'occurrence dans le cas d'AZCO, de la mobilité hydrogène.
Bien sûr.
Si je peux ajouter également un dernier point, une opportunité également en termes de souveraineté. Puisque là, on est sur une solution qui permet de produire localement une énergie qui va pouvoir être utilisée également localement. Donc, un champ de contraintes qui est très très fort et du coup qui permet en innovant de dégager des opportunités qui sont intéressantes pour tous.
Donc l'avantage c'est qu'on est déjà tous d'accord sur ce plateau, la décarbonation peut être un véritable levier économique, encore faut-il la financer, la produire, la déployer, c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette deuxième partie, parce que Pierre-Étienne, vous dirigez notamment le plus grand fonds d'investissement mondial dédié à l'hydrogène. Comment aujourd'hui l'hydrogène peut devenir la sorte de colonne vertébrale de cette industrie européenne?
Alors colonne vertébrale, n'exagérons rien, mais c'est vrai que si on est dans un modèle d'énergie décarbonée, les deux vecteurs énergétiques de demain, ce seront l'électron, donc l'électricité, et l'hydrogène. Soit seul, soit avec des produits dérivés, avec un peu de carbone qu'on aura recyclé de sources biogéniques d'émissions de carbone. Bon. Et donc, pour certaines industries et certains transports, on aura du mal à faire sans l'hydrogène. Notamment les industries lourdes, la sidérurgie, le raffinage, les engrais, la pétrochimie, la pâte à papier. Et si je veux garder ces industries en Europe, je ne peux le faire que si je redéfinis, comme on disait, les règles du jeu, que j'impose que demain, les produits uniquement fabriqués avec des molécules vertes sont acceptables sur le continent européen. Et dans ce contexte-là, je peux protéger les industries existantes et leur redonner un cycle de vie de 30 à 40 années. Et puis ensuite, mais ils en parleront mieux que moi, il y a évidemment les transports. Alors, l'électrification des transports, c'est bien, mais on sait que ça pose quelques problèmes parce que il va falloir quand même massivement upgrader, améliorer les réseaux de transmission et distribution. On parle de 800 milliards en Europe
à
dépenser sur les 20 prochaines années, alors qu'on en dépense quelques milliards par an. Donc, le scale-up est gigantesque. Et donc, l'hydrogène apporte un complément aux mobilités électriques, qui est très pertinent, notamment pour les transports intensifs et lourds, mais j'imagine que mes deux collègues en parleront bien mieux que moi.
Qui veut prendre la main?
Je prends la main, et après Loïc en parlera, mais déjà je pense que c'est important de bien comprendre ce qu'a dit Pierre-Étienne, c'est, on parle toujours de l'électron et de la molécule. On n'est pas en train d'opposer l'hydrogène à l'électricité, c'est complémentaire. Et d'ailleurs, les véhicules à hydrogène sont des véhicules électriques, hein, mais c'est une façon différente de stocker l'énergie, et après pour des usages différents. Donc il faut que tout le monde comprenne bien que on vient d'un monde avec des énergies fossiles et on va aller dans un monde où on aura différents types d'énergie en fonction des usages, avec un objectif, c'est de décarboner tous les usages.
Ouais.
Dans les transports, évidemment, la voiture électrique se développe de façon très rapide. Maintenant, on voit qu'il y a des limitations au niveau des réseaux et on sait qu'en Europe, dans les 5-10 prochaines années, on va arriver à des réseaux saturés parce qu'ils n'ont pas été prévus, les réseaux d'alimentation en électricité, pour alimenter des voitures en grande quantité. Et puis, il y a des usages très intensifs, et là, on pense avant tout aux camions, on pense aux trains, pour lesquels la batterie n'est pas la meilleure solution, parce que c'est beaucoup de poids, c'est très cher, c'est des temps de recharge très longs, et là, l'hydrogène commence à avoir un rôle de plus important. Nous, on travaille avec Alstom, par exemple, pour des trains à hydrogène, avec d'autres compagnies de trains, et ils font des choix en fonction de l'usage du train, et c'est pareil pour les fabricants de camions, d'aller vers la batterie, vers l'hydrogène, ou potentiellement vers une combinaison des deux. Donc,
d'accord,
on n'oppose pas les deux, c'est complémentaire, et c'est pour ça qu'il est important de développer l'hydrogène comme complément à la batterie. Et juste un dernier point, l'avantage de l'hydrogène, on parlait aussi de souveraineté énergétique. On sait tous que la batterie nous oblige à être encore plus dépendants de la Chine sur certaines matières premières. Donc on passe d'un monde fossile, on était dépendant de certains pays, et à un monde à toute batterie où on serait dépendant de la Chine. L'hydrogène, on maîtrise la plupart des technologies, on a la plupart des matières premières en Europe. Donc il y a aussi un vrai enjeu de souveraineté en plus de couvrir tous les usages.
Merci beaucoup Loïc. Là aussi vous êtes au cœur de cette chaîne de valeur hydrogène avec vos innovations industrielles. Quand on est une PME pionnière comme la vôtre sur ces sujets-là, est-ce que ces investissements européens dans l'hydrogène, ça change la donne?
Oui, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. On est en train de créer un nouveau secteur. En quelques années, on crée une nouvelle solution qui est donc la mobilité routière hydrogène. Et donc ça nécessite un alignement de tous les acteurs qui sont engagés dans ce secteur. Alors à commencer par les politiques publiques, les réglementations qui doivent absolument être stabilisées. S'il y a une chose à retenir, c'est que sans réglementation stabilisée, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs qu'on s'assigne collectivement. Mais c'est également des acteurs qui sont des États. L'État en France intervient pour soutenir la filière, les régions aussi qui sont des grands sponsors du développement de la mobilité hydrogène, et enfin des acteurs privés, des grands groupes industriels comme Laurent pourrait en parler, qui sont là pour innover mais également proposer des solutions de haute technologie à grande échelle, à échelle industrielle, des capacités également à financer. Donc on a besoin de fonds qui soient effectivement impliqués, engagés pour accompagner l'essor de ce secteur. Et puis des sociétés plus plus agiles, plus rapides, comme Iceco, qui vont permettre justement de percuter, d'être au départ des startups, puis des scale-up, et qui vont en fait se charger d'apporter des solutions, des services innovants à nos clients et vraiment réaliser du sur-mesure et puis permettre que ça aille en fait beaucoup plus vite.
C'est intéressant ce que vous dites parce que tous les trois vous faites partie de trois maillons d'une même chaîne quelque part avec l'investissement, l'innovation et la production. Est-ce que l'Europe aujourd'hui elle sait faire travailler ensemble ces trois mondes, ces trois secteurs, ou est-ce qu'il faut justement inventer une culture industrielle commune qui n'existe pas forcément aujourd'hui ou qui en tout cas de ce qu'on comprend est encore à ses prémices?
Non, je pense qu'on a, l'intention de, comme malheureusement souvent en Europe, il y a une intention qui est très forte.
Ouais.
Décarboner, on est les plus dynamiques, hein. Et ça, on peut en être fier en tant qu'Européens de se dire, il faut décarboner l'industrie et on revient pas en arrière, contrairement à d'autres pays du monde qui, en fonction des régimes politiques, reviennent en arrière. Donc, l'intention est très bonne. Maintenant, quand on veut aller vers une transition énergétique, on parle d'hydrogène, c'est un travail d'équipe. C'est non, les pouvoirs publics, c'est l'infrastructure, c'est la production d'énergie, c'est les transports, les différentes entreprises qu'on représente aujourd'hui. Et là, force est de constater que ce travail d'équipe n'est pas aussi performant que ce qui peut être en Chine. Nous, on a la chance d'être très globaux. On travaille aussi en Chine, on a des co-entreprises en Chine. Et on est toujours impressionné par cette force, cette machine qui avance. Et pour l'hydrogène, c'est la production d'hydrogène, c'est l'infrastructure, c'est les transports, etc. Et qui fait que la Chine n'est pas plus innovante que nous. Elle est mieux organisée et c'est un vrai travail d'équipe. Donc, il y a beaucoup d'intentions au niveau européen. Il y a des subventions. Nous, on a bénéficié de certaines subventions pour une usine qu'on a construite dans le nord de la France, à Compiègne, qu'on a investi plus de 100 millions. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que dans l'infrastructure, ça ne se développe pas aussi vite. Donc, c'est la coordination des efforts, c'est le travail d'équipe qui est potentiellement amélioré en Europe.
Et on va se dire les choses quand même. C'est un peu le thème de mon livre sur ce sujet. C'est que c'est normalement, cette urgence énergétique devrait être la priorité numéro un de n'importe quelle politique publique. Et à partir de ça, on peut tirer un fil sur tout un tas d'autres enjeux politiques essentiels, notre rapport à la dette, comment flécher les investissements vers les acteurs qui font des actifs durables, renforcer la gouvernance européenne, etc. Si on prend un exemple très concret, l'Europe, effectivement, a mis en place un paquet de réglementations très compliquées qui a été initié il y a maintenant 7 ans. Qui n'est toujours pas transposé dans les États membres et dont on est en train d'envisager déjà le changement, alors qu'il n'est même pas transposé. Dans la même période, la Chine, depuis 3 ans, déploie chaque année l'équivalent de l'ensemble du parc renouvelable installé européen. Le jour où M. Retailleau et d'autres acteurs politiques français demandaient un moratoire sur le renouvelable français, la Chine annonçait ses déploiements pour le semestre, qui était équivalent à l'ensemble du plan français jusqu'en 2050. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. Soit l'Europe met en place une gouvernance sérieuse pour déployer, et effectivement on déploie, parce que le pire c'est que les autres pays en dehors de l'Europe qui veulent nous exporter leurs énergies ont fait le job. Mais nous sommes embarqués dans une sorte de ritournelle incessante de débats entre les États membres, le Parlement, la Commission, qui fait qu'on n'arrive pas à mettre le pied à l'étrier pour effectivement mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas.
Donc c'est un sujet de gouvernance.
C'est un sujet de décision politique et d'application des décisions. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'en Chine, ceux qui avancent gagnent. En France, ceux qui attendent ont souvent plus de chances de gagner.
C'est inquiétant quand même, vous qui le voyez d'ailleurs et le vivez au quotidien, cher Loïc, vous la vivez cette concurrence pour un acteur émergent. Est-ce que produire en Europe aujourd'hui reste viable?
C'est vraiment une question de détermination et de plan pour reformuler ce qui vient d'être dit. Ouais. Il y a effectivement une réglementation qui est absente, ou plus exactement qui n'est pas stabilisée, c'est vraiment terrible. Enfin, ce que vient de décrire Pierre-Étienne, pour une entreprise comme la nôtre, c'est absolument terrible.
Bien sûr.
On a déployé les infrastructures. On a acheté des voitures, on a les clients, on a pris en compte dans notre business model, évidemment, la réglementation qui a été annoncée depuis 7 ans par l'Europe. Aujourd'hui, elle est toujours pas en place Et on est même en train de changer les acronymes. Je vais vous épargner ça.
Mais on soutient, c'est nous qui soutenons, c'est les fonds d'investissement qui soutiennent.
Ouais.
Donc on change même les acronymes des dispositifs qui étaient imaginés il y a quelques années. Donc ça, c'est absolument terrible pour nous. Et effectivement, c'est très compliqué en fait pour aiguiser l'appétit des financiers à porter en fait la construction de cette filière.
Bah oui.
Donc il manque en fait un plan. Il manque un plan. Je suis peut-être un peu trop jeune, mais j'ai pas connu ça, mais une forme de commissariat au plan qui serait efficace au niveau européen et qui permette justement d'engager les énergies sur une voie qui soit claire et stabilisée. Voilà. Après, nous, pardon, entre grands groupes, sociétés de taille plus modeste, entre fonds, etc., on sait parler, on sait travailler ensemble, on sait s'engager sur ces dynamiques avec une grande détermination.
Il y a une toute petite confusion dans les esprits, c'est que d'un côté, il faut un cadre très strict et très réglementé, et de l'autre, il faut simplifier la mise en œuvre, les réglementations de mise en œuvre. Monsieur, dans les débats aujourd'hui à Mouy, il y avait quelqu'un qui rappelait qu'on avait réussi à construire quelques centaines de kilomètres de pipe pour connecter le Havre au bassin parisien en 2 ans. Aujourd'hui, vous imaginez même pas combien de temps il faudrait pour faire 300 km de pipe sur le territoire français. C'est un véritable scandale, en fait. Ouais. Parce qu'on doit refondre complètement notre système énergétique et on est dans un système où c'est compliqué de mettre les règles de sur lesquelles on travaille. Et ensuite, les règles de déploiement, les réglementations au quotidien sur le terrain sont extrêmement complexes. C'est ça l'ambivalence que l'on a avec la réglementation générale.
Laurent, je voudrais qu'on passe maintenant au concret, bien que ce que vous exposiez depuis tout à l'heure est très concret, mais aujourd'hui dans votre entreprise par exemple, décarboner ça va au-delà d'une idée, c'est du très concret, c'est des salariés, c'est des matériaux aussi. Comment vous faites pour repenser vos usines, votre entreprise pour qu'elles deviennent vraiment bas carbone?
Enfin, c'est l'ensemble du travail dans l'entreprise. Hein. Vous évoquez les usines, on a 150 usines dans le monde, nous, et cette année, on est neutre en carbone dans nos usines. C'est vrai que toutes nos usines utilisent de l'énergie renouvelable, soit qu'on produit nous-mêmes, soit qu'on achète pour être neutre en carbone. C'était un engagement, c'est pas une obligation réglementaire, mais c'est un engagement parce que la société y croit et se dit il faut qu'on montre qu'une entreprise comme la nôtre, globalement, donc toutes nos usines seront neutres en carbone en 2025 pour la première année. Après, il n'y a pas évidemment que ce qui se passe dans l'usine, il y a ce qui se passe en amont et en aval. Donc en amont, il y a tous nos fournisseurs, toutes les pièces qui nous envoient, la façon dont eux produisent. Et là, il y a un travail énorme à faire pour réduire les chaînes logistiques. Donc essayer d'avoir des chaînes logistiques les plus locales possibles. Je pense qu'on passe d'un monde globalisé à un monde régionalisé, parce que sinon ça ne marche pas pour plein de raisons, et notamment pour la neutralité carbone. Ça veut dire que maintenant, on valorise, quand on fait un appel d'offres auprès de nos fournisseurs, on valorise leur impact carbone en disant tu peux être un peu plus cher si t'es moins impactant au niveau carbone, si t'es plus proche de chez nous, etc. Donc là, il y a un travail immense à faire en amont. Il y a aussi un travail immense à faire dans la conception des pièces, savoir quels matériaux on utilise. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des pièces pour l'automobile, par exemple des pare-chocs, tous les plastiques ne sont pas recyclables. Donc il faut réutiliser de la matière. Donc ça veut dire concevoir différemment, concevoir aussi des voitures pour qu'elles soient démontables à la fin de leur cycle de vie et que les matières soient recyclées. Donc c'est vraiment un travail de fond qui est à tous les échelons de l'entreprise. On a commencé dans les usines parce que c'est symbolique, mais ça impacte notre façon de travailler à tous. Et puis après, c'est investir dans des technologies comme la batterie, comme l'hydrogène. On a investi 600 millions dans l'hydrogène ces dernières années. Donc nous, on continue à y croire, même si parfois on a le bras qui tremble un petit peu avec tout ce qui se passe au niveau de la réglementation, parce que c'est le temps long, hein, finalement, dans lequel on s'inscrit.
C'est ça.
Donc c'est à plein de niveaux. Et ce qui est bien, j'allais dire, ce qui est chouette, c'est que c'est un élément qui est assez fédérateur pour les collaborateurs. On voit que partout dans le monde, quand on parle de décarboner ou d'avoir une industrie de mobilité, en l'occurrence, qui soit en phase avec les enjeux planétaires, ça parle aux gens. Moi, j'étais en Inde la semaine dernière et ça parle aussi aux Indiens. Donc, on se dit, c'est bien de pouvoir engager nos collaborateurs derrière un beau projet comme celui-là, malgré tous les défis qu'on rencontre et malgré ce qui est souligné Pierre-Étienne, ce qui parfois nous déprime, c'est la façon dont l'Europe n'arrive pas à gérer cette transition énergétique, alors qu'on se veut être un leader dans le monde pour justement avoir une économie plus décarbonée.
Ils croient à l'hydrogène, les Indiens, ou pas ?
Alors les Indiens, je te racontais tout à l'heure, l'Inde est un pays très différent de la France, c'est évidemment.
Sûr. Si vous arrivez à créer une dynamique, tant mieux.
Parce mais que... donc ils souffrent de la pollution, d'une démographie qui est très importante, de villes qui sont surpeuplées en termes de tout type de véhicules. Mais je racontais à Pierre-Étienne tout à l'heure que j'ai rencontré leur ministre de l'Industrie et des Transports. Il m'a parlé que d'hydrogène pendant une demi-heure. Ah ouais. Parce qu'ils ont conscience de ces enjeux. Ils n'ont pas de réseau électrique établi aussi bien qu'en Europe. Et ils ont beaucoup de poids lourds. Donc pour eux, ça passera par l'hydrogène. Et donc ils veulent développer des filières hydrogène.
C'est passionnant ce que vous dites parce que, et d'ailleurs vous l'avez prononcé tout à l'heure, c'est un temps long. Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre-Étienne, les investisseurs, les financeurs sont prêts à financer ce temps long?
C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire avec, puisqu'on a près de 700 millions investis nous aussi dans des développeurs de projets qui sont en l'occurrence en train de chercher les lieux, les conditions de permis et les off-takers, enfin les clients, pour déployer des projets de fuel synthétique ou d'hydrogène vert ou d'ammoniac vert, etc. Et de fait, on vit avec le décalage régulier de la mise en œuvre des réglementations que l'on absorbe en finançant les développements. On soutient aussi très fortement des sociétés comme celle de Loïc qui sont engagées massivement dans des solutions de décarbonation. Donc oui, on peut le faire, mais pour ça, il faut des investisseurs qui soient conscients que c'est du temps long. Donc c'est un fonds de 12 ans plus 2 qui peut faire 14 ans. Mais il y a quand même le rendement à l'arrivée, donc on ne peut pas non plus attendre à l'infini que les choses se fassent.
C'est une question de pédagogie presque auprès de ces investisseurs. Justement, Loïc, à votre échelle de start-up industrielle, qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est la réglementation, la technologie?
Alors en fait, des défis, nous on en a des dizaines.
Quotidiennement, j'imagine.
Voilà, c'est une course d'obstacles et certains franchissements d'obstacles, d'ailleurs, nous excitent particulièrement. Le véritable frein, c'est celui de la réglementation, mais je pense qu'on va peut-être pas s'étendre plus là-dessus.
Bien sûr.
C'est vraiment avoir une réglementation qui soit stabilisée. On n'est même pas en train de faire du lobbying pour avoir une meilleure réglementation ou une optimisation fiscale ou je ne sais quoi. C'est d'avoir un cadre qui soit stabilisé sur un horizon de 5 ans et puis qu'on y aille. Pour voir les choses aussi de manière positive, même si on s'inscrit tous dans un temps long pour que la mobilité hydrogène puisse être accessible à grande échelle pour tout un chacun, je voudrais quand même souligner ce qu'on est capable de faire, alors en toute humilité, à l'échelle de Iceco, qui aujourd'hui pilote la plus grande flotte de véhicules légers hydrogène du monde. Hein, on a 800 véhicules, 7 en Ile-de-France, 7 à Paris. Avec d'un usage intensif des véhicules, donc on est essentiellement dans le taxi, mais on va démarrer aussi dans le VTC, on est aussi dans l'utilitaire. Et ça, on a été capable de le faire. On a été capable de le faire malgré les conditions un peu difficiles qu'on vient de décrire. Donc oui, on aimerait qu'on puisse libérer encore plus nos énergies, parce qu'on voit à quel point cette solution technologique fait sens par rapport aux contraintes dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, on est inscrit sur une dynamique, on sait faire des choses absolument formidables. Et vous parliez tout à l'heure de Chine, d'Inde, d'autres. Nous, on reçoit chaque mois plusieurs délégations qui viennent de Chine, qui viennent du Japon, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Australie, qui viennent d'Inde, pour s'inspirer du business model qu'on a créé.
Ah ouais.
Et ils sont à chaque fois enthousiastes en fait à l'idée de créer des équivalents dans leur propre pays.
On peut dire que les territoires aident aussi, hein, parce que on arrive à le faire à Paris, en région Île-de-France, parce que les régions, la mairie de Paris, nous ont aidé à ce que ça se passe relativement bien.
Oui, c'est juste pour la région Île-de-France et puis également d'autres régions en France. On peut citer la région Auvergne-Rhône-Alpes ou la Vendée, qui est aussi un territoire très en avance sur la mobilité hydrogène.
Ouais. Justement, à quoi ressemblera selon vous la chaîne de valeur européenne d'ici à 2040, si on essaie de se projeter un peu? Est-ce que vous restez optimiste?
Alors, il y a peut-être parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, notamment dans le nord de l'Europe, entre l'Allemagne et les pays nordiques. L'Espagne aussi avance très fort. Je pense que il est probable que le marqueur du succès de cette dynamique hydrogène, ce sera ce réseau interconnecté permettant à l'hydrogène produit très peu cher en Espagne et dans le nord d'Europe à aller vers le cœur de l'Europe, c'est-à-dire France et Allemagne et pays de langue allemande. C'est la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'on construit un réseau depuis l'Europe. et non pas en agrégeant, en essayant de connecter des réseaux nationaux. Donc c'est un emblème d'une vision européenne de l'énergie de demain, et je pense que ça, ce sera un maillon clé. Ensuite, le vrai sujet, mais ça, je pense que Laurent en parlera mieux que nous, c'est comment arrivera-t-on à travailler avec les Chinois ? Les Chinois sont beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus rapides. Il faut trouver un moyen de travailler avec eux. Pour moi, c'est absolument essentiel pour l'avenir de l'Europe.
Laurent, justement, allez, vous avez 4 heures pour nous expliquer comment travailler avec la Chine.
J'ai combien d'heures ?
4 heures, non, à peine une minute.
Non, mais je pense que la force des Chinois, c'est évidemment, dans beaucoup de secteurs, c'est la masse. Hein, ils ont un marché très important,
mais oui.
Encore plus important que le marché européen. Et surtout, on parlait de travail d'équipe, et Loïc parlait de plan. Bah, y a un plan quinquennal en Chine, et il est suivi, il est remis à jour régulièrement, et donc l'hydrogène en fait partie. À partir du moment où c'est dans le plan, toutes les planètes s'alignent, parce qu'on produit l'hydrogène, l'hydrogène vert, on fait l'infrastructure, on crée des champions, et donc ils arrivent, pas parce qu'ils sont meilleurs que nous intrinsèquement, pas parce qu'ils ont des meilleurs ingénieurs, mais simplement ils ont un gros marché et ils ont un plan, et ils déroulent le plan. Donc, nous on pense qu'en Europe on a toutes les technologies pour y arriver, et encore une fois c'est un enjeu de souveraineté également, et donc c'est très très important. On sait à long terme la souveraineté est très importante pour l'Europe. Créer une certaine indépendance et savoir gérer ses dépendances, et probablement que travailler avec des acteurs chinois pourrait nous permettre d'accélérer dans l'hydrogène. Mais moi je pense que l'Europe a quand même toutes les forces nécessaires pour y arriver. Maintenant c'est la stabilité de la réglementation. Ça c'est terrible chez nous, ça change. Vous savez que je reviens à ma petite voiture, la voiture électrique. La fiscalité en France a changé 15 fois en 5 ans sur les voitures. Donc comment vous pouvez imaginer qu'un investisseur s'inscrive dans 10 ans si on change tous les 6 mois de réglementation? Bien Donc sûr. C'est stabilité de la réglementation, travail d'équipe au sein de l'Europe, et probablement partenariat parfois avec certains Chinois qui sont bien avancés sur ces secteurs-là.
On a entendu en tout cas tous les trois vos différents messages, à la fois aux politiques et à d'autres, votre volonté justement d'avantage concurrentiel européen, et puis ce que vous faites. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été parmi nous. C'était un vrai plaisir.
Merci beaucoup
de vous avoir. On le voit, décarboner, mesdames et messieurs, nos chaînes industrielles, c'est bien plus qu'une question d'écologie, vous l'aurez compris. C'est d'abord et avant tout une question de puissance économique, d'innovation et d'indépendance européenne. Tout ça, on continue à en parler évidemment dans les prochains épisodes de BFM Climat. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.